Être croyant chrétien, frères et sœurs amis en Christ, ne veut pas dire mettre de côté l'Ancien Testament. Cet enseignement va nous permettre de mieux saisir, mieux comprendre l'importance de sa lecture. Cet enseignement nous rappelle aussi par sa lecture ouverte par l'Esprit de Dieu, et nous le savons, du moins pour les croyants chrétiens, que nous ne sommes plus sous la servitude de l'Ancienne Alliance, loi de Moïse. C'est grâce à la connaissance de ce qui s'est passé dans la marche de Dieu avec le peuple d'Israël que le croyant chrétien pourra savoir marcher avec Dieu par Jésus-Christ, son médiateur et souverain sacrificateur. À quoi servent les livres de l'Ancien Testament ? Dans les livres de l'ancienne alliance dite « alliance lévitique », c'est-à-dire allant de Exode jusqu'à Malachie, ces livres aident à observer ce qu'a été les agissements des enfants d'Israël, le peuple de Dieu, le peuple hébreu, et les retombées de ce comportement et conduite vis-à-vis de l'Éternel Dieu. Ce peuple, pour bien dire, les enfants d'Israël devenant esclaves de Pharaon d'Égypte par la volonté de Dieu. Le même Dieu va ensuite décider de mettre fin à cet esclavage. Dieu va choisir un homme, descendant d'un des enfants de Jacob, Israël, c'est-à-dire Lévi, pour sortir ses frères et les conduire dans une terre promise. Une terre promise par l'Éternel à Abraham, leur arrière-grand-père. Genèse 32-28. Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Exode 1, versets 1 à 7. Voici les noms des fils d'Israël, venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Exode 2, versets 1 à 10. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de joncs qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit « C'est un enfant des Hébreux ». Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. C'est ce Moïse que l'Éternel Dieu choisit pour faire sortir ses frères de l'Égypte, où ils étaient esclaves durant des siècles. Exode 3, versets 1 à 10. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, Et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. » Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éthiens, les Émoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse était donc le premier médiateur entre l'Éternel Dieu et ses frères israélites. Mais Moïse se sentait incapable d'assurer cette lourde mission. Cette mission qui demandait l'éloquence, le courage, qui demandait de la patience, de la tolérance et surtout de l'amour. Exode 4, versets 1 à 9. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils ne m'écouteront point ma voix. Mais ils diront, « L'Éternel ne t'est point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. « C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, « Remets ta main dans ton sein. » Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. « S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'il ne croit pas même à ces deux signes, et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre. » Et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. » Mais Moïse persistait à son refus d'assumer cette mission par le manque de l'éloquence. Exode 4, versets 10 à 17. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. » Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. » L'Éternel, malgré la fuite en avant de Moïse, l'Éternel imposait à Moïse cette mission de la médiation entre lui et les Israélites, secondé de son frère Aaron, son aîné, comme souverain sacrificateur. Après l'accomplissement de cette mission de faire sortir ses frères de l'Égypte, l'Éternel confiait à Moïse les tables de la loi de Dieu pour l'instruction de ses frères. Exode 24:12. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » Exode 32:15-16. Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Mais Moïse avait-il accompli cette recommandation de l'Éternel en instruisant ses frères ? Exode 32, versets 17 à 20. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris, et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. » Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Par ces passages, Moïse n'a pas accompli cette recommandation. Il a fait le contraire. Il a cassé et même condamné ses frères en leur faisant boire leurs péchés. Et ce n'est pas seulement cela. Nombre 20, 7 à 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Frères et sœurs en Christ, nous tenons seulement à attirer votre attention. Ceci, ce n'est pas un jugement que nous faisons à Moïse. Mais comprenez aussi ceci. Moïse, malgré son amour à Dieu, Moïse refusait tout le temps à assumer sa responsabilité selon l'ordonnance de l'Éternel. Mais Dieu était avec Moïse pour l'accomplissement de sa mission malgré ses erreurs. Exode 33, verset 14. L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Dieu est un Dieu de patience. Sa parole était de faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Quelle que soit la résistance de Moïse, l'Éternel Dieu doit accomplir ce qu'il a dit. C'était pour montrer sa puissance qui ne fait aucun défaut à sa parole. Mais Moïse a payé au plus fort. Deutéronome 32, 48 à 52. Ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter, et tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, est mort sur la montagne de Hor et a été recueilli auprès de son peuple. Parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Meriba, à Kadesh, dans le désert de Tsin, et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Voilà pourquoi les enfants d'Israël marchaient par la loi et non par l'Esprit de Dieu. Ils marchaient par la loi établie par le médiateur Moïse. C'est pour cela cette loi s'appelle la loi de Moïse ou la loi lévitique. Pour le croyant chrétien, baptisé par le nom de Jésus-Christ et portant ce nom, le croyant chrétien, lui, n'est pas concerné par la loi lévitique, c'est-à-dire la loi de Moïse. Il n'est pas concerné par les rites et les traditions lévitiques, c'est-à-dire les ordonnances de cette loi. Le culte, les offrandes, les dîmes, les sabbats et les interdits de ne pas manger ceci, de ne pas s'habiller comme ceci ou comme cela. Colossiens 2, 14 à 17. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Tout simplement parce que Moïse n'est pas son médiateur. Aaron n'est pas son souverain sacrificateur. Le peuple d'Israël marchait par la loi. Le croyant chrétien, lui, marche par l'Esprit de Dieu dont il est son temple. Les enfants d'Israël ont été baptisés en Moïse. Par contre, le croyant chrétien est baptisé au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. 1 Corinthiens 10, versets 1 et 2. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Acte 2, 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ceux qui sont baptisés en Moïse ne reçoivent pas les dons du Saint-Esprit de Dieu. Par contre, ceux qui sont baptisés au nom de Jésus-Christ reçoivent les dons du Saint-Esprit de Dieu et sont appelés enfants de Dieu. Romains 8, versets 15 et 16. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Frères et amis en Christ, ces choses sont un rappel afin de vous éclairer davantage sur cette vérité. Car nous avons déjà traité ce sujet. Beaucoup de nos frères, par ignorance, continuent de se laisser soumettre à la loi lévitique, à ses ordonnances, à ses rites et traditions. Ils oublient ceci. Hébreux 7, 12. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Maintenant, qu'est-ce qui nous attire à jeter notre regard sur ce qui s'est passé dans la marche des enfants d'Israël avec Dieu? Ce n'est pas d'accomplir la loi de Moïse, la loi lévitique, ses rites et traditions, c'est-à-dire leur culte, mais d'observer la réaction de Dieu sur le comportement, sur la conduite et attitude des enfants d'Israël et les retombées de ces derniers. S'ils obéissent à la voix de l'Éternel, c'est bien. Mais s'ils s'éloignent de la voie de l'Éternel. Cela aide le croyant chrétien à rectifier pour bien marcher avec Dieu par Jésus-Christ, sa parole vivante. Matthieu 17, 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ses paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Jean 15, 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Jean 13, versets 15 et 17. « Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Pour cela, les livres de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, est utile pour le croyant chrétien. Notre loi est donc la loi royale établie par notre médiateur et souverain sacrificateur Jésus-Christ. 1 Timothée 2, 5. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Hébreux 7, 22. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Hébreux 8, 6. Mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établi sur de meilleures promesses. Donc, pour le croyant chrétien, il ne s'agit pas de mettre la loi de Moïse en pratique, car Jésus-Christ a accompli cette loi pour nous par la croix. Jean 19, 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Oui, frères et sœurs, il a payé la rançon, c'est-à-dire l'offrande par son sacrifice une fois pour toutes. Nous n'avons plus à payer. Hébreux 10, 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Celui qui vous impose encore à vous, croyants chrétiens, ces ordonnances de la loi de Moïse, ne reconnaît pas l'offrande unique de Jésus-Christ sur la croix. Il est donc sans détour un antéchrist. Galates 2, 21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Jésus est notre rançon. Gloire à Dieu. 1 Timothée 2, 5 et 6. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Quelle offrande doit-on exiger encore? Quelle dîme doit-on exiger encore? Jésus a tout payé. Le croyant chrétien doit offrir à Dieu son corps, un corps dépouillé de toute souillure. Romains 6, versets 15 et 16. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Philippiens 3, 3. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Colossiens 2:18, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Hébreux 9, verset 1, et aussi 9 et 10. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte, et qui, par les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Hébreux 12, 28 et 29. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Le croyant chrétien doit vivre la loi royale de son médiateur et souverain sacrificateur Jésus-Christ. Jacques 2, 8. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Jean 15, 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Matthieu 25, 35 à 40. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi ?» Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » 1 Pierre 1, 15 et 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Frères et sœurs en Christ, vous ne direz pas que vous ne connaissiez pas. Partagez autour de vous cette vérité que beaucoup de nous ignorent. 1 Corinthiens 7, 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Pour terminer, le sacerdoce lévitique est une alliance terrestre avec héritage. La terre promise, le Canaan, eux, ils marchaient par la loi terrestre. Le sacerdoce royal par Jésus-Christ est une alliance éternelle dont l'héritage est la vie éternelle. Le croyant chrétien, il marche par l'Esprit de Dieu. Le croyant chrétien marche et il est conduit non par un homme mortel, mais par l'Esprit immortel de Dieu. Jean 16, versets 13 à 15. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. C'est pour cela nous vivons par la foi et non par la vue. nous avons une espérance des choses à venir. Ces choses, ce sont les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2:9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est pour cela le croyant chrétien n'est pas de ce monde. Jean 17, 14 à 21. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Gloire à Dieu !